Chapitre 22e. Madame de la Rochegue, après un moment de silence, jetant sur Monsieur de Maillefort un regard pénétrant, lui dit « Marquis, je vous ai deviné. »«
Ah bah !»«
Parfaitement deviné. »« Vous faites tout en perfection, ça ne m'étonne pas. Voyons donc cette surprenante divination. » De peur de raviver mes regrets, je ne veux pas compter le nombre d'années pendant lesquelles vous n'avez pas mis les pieds chez moi, marquis, et voilà que, soudain, vous me revenez avec un empressement tout flatteur. Moi, qui suis bonne femme et pas du tout glorieuse, je me suis dit « Voyons, baronne, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? » « Oh mon Dieu, je me suis dit tout simplement ceci. » Après le brusque délaissement de M. de Maillefort, qui me vaut donc le plaisir nouveau de le voir si souvent ? C'est probablement parce que je suis la tutrice de Mademoiselle de Beauménil et que cet excellent marquis a un intérêt quelconque à revenir chez moi. Ma foi, baronne, c'est à peu près cela. Comment, vous l'avouez ? Il le faut bien. Vous allez me faire douter de ma pénétration en vous rendant si vite, marquis. Ne sommes-nous pas en pleine orgie de franchise ?
C'est vrai.
Alors, à mon tour, je m'en vais d'abord vous dire pourquoi j'ai soudain cessé de venir chez vous. C'est que, voyez-vous, baronne, moi, je suis une manière de stoïque. Eh bien, que fait là le stoïcisme ? Il fait beaucoup, car il m'a donné l'habitude, lorsqu'une chose me plaît extrêmement, d'y renoncer soudain, afin de ne point me laisser amollir par de trop douces habitudes. Voilà pourquoi, baronne, j'ai brusquement cessé de vous voir. Je voudrais croire cela, mais essayez toujours. Quant à mon retour chez vous, ah, ceci est plus curieux. Vous avez deviné à peu près juste.
À peu près, marquis ?
Oui. Car bien que je n'ai aucun projet au sujet du mariage de votre pupille, je me suis cependant dit ceci. Cette prodigieuse héritière va être le but d'une foule d'intrigues plus amusantes ou plus ignobles les unes que les autres. La maison de Madame de la Rochegue sera le centre où aboutiront tant d'intrigues diverses. On sera là, comme on dit, aux premières loges, pour voir tous les actes de cette haute comédie. À mon âge, et fait comme je suis, je n'ai d'autre amusement dans le monde que l'observation. J'irai donc en observateur chez Madame de la Rochegue. Elle me recevra, parce qu'elle m'a reçu autrefois, et qu'après tout, je ne suis ni plus sot ni plus ennuyeux qu'un autre. Ainsi, de mon côté, j'assisterai tranquillement à cette lutte acharnée entre les prétendants. Voilà la vérité. Maintenant, baronne, aurez-vous le courage de me refuser de temps à autre une petite place dans votre salon, pour observer cette bataille dont votre pupille doit être le prix ?
Ah, marquis,
dit Madame de la Rochegue en hochant la tête, vous n'êtes pas de ces gens qui, sans prendre part à la mêlée, regardent les autres se battre.
Eh, eh, je ne dis pas non.
Vous voyez donc bien, vous ne resterez pas neutre.
Je n'en sais rien,
ajouta le marquis, et il appuya beaucoup sur les mots suivants. Mais comme je suis assez compté dans le monde, comme je sais beaucoup de choses, comme j'ai toujours su maintenir mon franc-parler, comme j'ai horreur des lâchetés, je vous avoue que si, dans la mêlée, comme vous dites, ma chère baronne, je voyais perfidement attaquer ou menacer un brave guerrier, dont la vaillance m'aurait intéressé, j'irais, ma foi, à son secours par tous les moyens dont je puis disposer.
Mais, monsieur,
dit la baronne en cachant son dépit sous un rire forcé, cela, permettez-moi de vous le dire, cela est une sorte d'inquisition permanente, dont vous seriez le grand inquisiteur et dont le siège serait chez moi.
Oh mon Dieu !
Chez vous ou ailleurs, ma chère baronne ? Vous sentez bien que si, par un caprice de jolie femme, et plus que personne vous pouvez vous permettre ces caprices-là, vous disiez à vos gens qu'à l'avenir, vous n'y serez jamais pour moi.
Ah, marquis, pouvez-vous penser ?
Je plaisante, reprit M. de Maillefort d'un ton sec. Le baron est de trop bonne compagnie pour souffrir que votre porte me soit refusée sans raison, et il m'épargnera, j'en suis certain, une explication à ce sujet. J'avais donc l'honneur de vous dire, ma chère baronne, qu'une fois résolu d'observer ce fait fort curieux, à savoir de quelle manière se marie la plus riche héritière de France, je puis placer partout le siège de mon observatoire, car malgré ma taille, j'ai la prétention de voir droit, de haut, de loin. « Allons, mon cher marquis, » dit Madame de la Rochegue, redevenant souriante, « avouez-le, c'est une alliance offensive et défensive que vous me proposez. Pas le moins du monde. Je ne veux être ni pour vous ni contre vous. J'observerai beaucoup et puis, selon mon petit jugement et mes faibles ressources, je tâcherai de servir ou de desservir celui-ci ou celui-là, si l'envie m'en prend, ou plutôt, si la justice et la loyauté l'exigent, car vous savez combien je suis original. Mais pourquoi ne pas vous borner à votre rôle de curieux, d'observateur? Pourquoi ne pas rester neutre? Parce que, et ce n'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit, ma chère baronne, parce que je ne suis malheureusement pas de ceux-là qui peuvent voir les autres se battre, sans prendre un peu part à la mêlée. Mais enfin, dit Madame de la Rochegue poussée à bout, si, et c'est une pure supposition, car nous sommes décidés à ne pas songer de longtemps au mariage d'Ernestine, si, par supposition, vous disais-je, nous avions quelqu'un en vue pour elle, que feriez-vous?
Je n'en sais, ma foi, rien du tout.
Allons, monsieur le marquis, vous jouez au fin avec moi. Vous avez un projet quelconque?
Aucun.
Je ne connais pas mademoiselle de Beauménil. Je ne vous propose personne. Je suis donc parfaitement désintéressé dans mon rôle de curieux, d'observateur. Et puis enfin, je vous demande un peu, qu'est-ce que cela vous fait, ma chère baronne, que je sois curieux et observateur?
Il est vrai, dit madame de la Rochegue en reprenant son sang-froid.
Car après tout, en mariant Ernestine, que pouvons-nous avoir en vue?
Son bonheur.
Parbleu! Nous n'avons donc rien à craindre de votre observatoire, comme vous dites, mon cher marquis.
Rien, absolument, ma chère baronne.
Car enfin, si par hasard nous faisions fausse route,
ce qui arrive aux mieux intentionnés?
Certainement, marquis. Vous ne manqueriez pas alors de venir à notre aide et de nous signaler l'écueil du haut de votre lumineux observatoire?
On est observateur, c'est pour cela, dit monsieur de Maillefort en se levant pour prendre congé de madame de la Rochegue.
Comment, marquis? Dit la baronne en minaudant. Vous me quittez déjà?
À mon grand regret. Je vais faire ma tournée dans 5 ou 6 salons, afin d'entendre parler de votre héritière. Vous n'avez pas d'idée comme c'est amusant et curieux, et parfois révoltant, tous ces bavardages au sujet d'une dot si phénoménale.
Ah ça, mon cher marquis, dit madame de la Rochegue en tendant sa main au bossu de l'air le plus cordial, parlons sérieusement. J'espère vous voir souvent, n'est-ce pas? Très souvent. Et puisque tout ceci vous intéresse, malin, curieux, soyez tranquille, je vous tiendrai au fait de tout, ajouta mystérieusement la baronne.
Et moi aussi, répondit non moins mystérieusement monsieur de Maillefort. De mon côté, je vous raconterai tout. Ce sera délicieux.
Et à propos de propos, ajouta le marquis en souriant et d'un air très détaché. Quoiqu'il fût venu chez madame de la Rochegue autant pour voir Ernestine que pour tâcher d'obtenir quelques éclaircissements sur un mystère encore impénétrable pour lui.
À propos de propos, reprit donc le marquis, avez-vous entendu parler d'un enfant naturel que laisserait monsieur de Beauménil?
Monsieur de Beauménil? Demanda la baronne avec surprise.
Oui, lui répondit le bossu.
Car en déplaçant ainsi la question, il espérait arriver au même résultat d'investigation sans risquer de compromettre le secret qu'il croyait avoir surpris à madame de Beauménil.
Oui. Avez-vous entendu dire que monsieur de Beauménil eut un enfant naturel?
Non, répondit la baronne. C'est la première fois que ce bruit vient jusqu'à moi.
Dans le temps, on a, je crois, parlé d'une liaison de la comtesse avant son mariage. Ce serait donc plutôt à elle que se rapporterait l'histoire de ce prétendu enfant naturel, mais je n'ai, quant à moi, jamais rien entendu dire à ce sujet.
Alors que ce bruit regarde le comte ou la comtesse, reprit le bossu, c'est évidemment un conte absurde, ma chère baronne, puisque vous en ignorez complètement, vous, qui par votre position et par votre connaissance des affaires de la famille, devriez être mieux instruite que personne sur un fait si grave.
Je vous assure, marquis, que nous n'avons rien vu ni lu qui pût nous donner le moindre soupçon que monsieur ou que madame de Beauménil ait laissé un enfant naturel.
Monsieur de Maillefort, doué d'infiniment de tact et de pénétration, fut avec raison convaincu de l'ignorance absolue de madame de la Rochegue au sujet de la fille naturelle qu'il supposait à la comtesse. il vit avec chagrin la vanité de sa nouvelle tentative, désespérant presque de pouvoir accomplir les dernières volontés de Madame de Beauménil, ne sachant comment retrouver la trace de cet enfant inconnu. Madame de la Rochegue reprit sans remarquer la préoccupation du bossu. Du reste, on dit tant de choses inconcevables à propos de cet héritage. N'a-t-on pas aussi parlé de legs aussi bizarres que magnifiques laissés par la comtesse? Vraiment?
Ce sont encore là des histoires de l'autre monde, reprit Madame de la Rochegue avec un ton de dénigrement marqué, car elle avait toujours été fort hostile à Madame de Beauménil. La comtesse a laissé de mesquines pensions à deux ou trois vieux serviteurs et une petite gratification à ses autres domestiques. C'est à cela que se réduisent ses legs si magnifiques. Seulement, pendant que la comtesse était en veine de générosité, ajouta Madame de la Rochegue avec un redoublement d'aigreur, elle aurait dû ne pas commettre l'ingratitude d'oublier une pauvre fille à qui elle devait pourtant bien quelque reconnaissance.
« Comment cela ? » demanda le marquis, obligé de cacher ses pénibles sentiments, en entendant la baronne attaquer la mémoire de Madame de Beauménil.
« De quelle jeune fille voulez-vous parler ? » ?»«
Vous ne savez donc pas que, pendant les derniers temps de sa vie, la comtesse, suivant l'avis de ses médecins, avait fait venir auprès d'elle une jeune artiste à qui elle a dû souvent de grands soulagements dans ses douleurs ?»«
En effet, l'on m'en a vaguement parlé, » répondit le bossu en cherchant à rassembler ses souvenirs.
« Eh bien, n'est-il pas inouï que la comtesse n'ait pas laissé le moindre petit legs à cette pauvre fille? Si c'est un oubli, il ressemble furieusement à de l'ingratitude. »
Le marquis connaissait si bien la noblesse et la bonté de cœur de Madame de Beauménil qu'il fut doublement frappé de cet oubli à l'endroit de la jeune artiste. Après quelques instants de réflexion, il pressentit vaguement que, par cela même, que cet oubli, s'il était réel, semblait inexplicable. Il y avait dans cette circonstance autre chose qu'un manque de mémoire. Aussi, reprit-il,
« Vous êtes sûre, baronne, que cette jeune fille n'a reçu aucune rémunération de Madame de Beauménil ? Vous en êtes bien sûre ?»«
Notre conviction a été si unanime à ce sujet, reprit la baronne, enchantée de cette occasion de se faire valoir, que, révoltée de l'ingratitude de la comtesse, nous avons, par égard pour la famille, envoyé un billet de 500 francs à cette jeune fille.
C'était justice.
« Sans doute. Et savez-vous ce qui est advenu ?»«
Non. » »«
La jeune artiste nous a rapporté fièrement les 500 francs en disant qu'elle avait été payée. »«
Cela est d'un noble cœur, » dit vivement le marquis. « Mais vous le voyez, la comtesse n'avait pas oublié cette jeune fille. Sans doute elle lui aura remis à elle quelques témoignages de sa gratitude au lieu de lui laisser un legs. »«
Vous ne croiriez pas cela, marquis, si vous aviez vu la misère décente mais significative des vêtements de cette jeune fille. »
Cela faisait mal, et certes, elle eût été autrement habillée, si elle avait eu quelque part aux largesses de Madame de Beauménil. D'ailleurs, cette pauvre jeune artiste, qui, soit dit en passant, est belle comme un astre, m'a fait si grande pitié, ajouta Madame de la Rochegue avec une affectation de sensibilité.
La délicatesse de sa conduite m'a si fort émue que je lui ai proposé de venir donner des leçons de musique à Ernestine.
Vrai, vous avez fait cela, mais c'est superbe.
« Votre étonnement est peu flatteur, marquis. »«
Vous confondez l'admiration avec l'étonnement, baronne. Je ne m'étonne pas du tout. Je sais les trésors de bonté, de mansuétude que renferme votre excellent cœur, » dit M. de Maillefort en cachant sous son persiflage habituel l'espérance qu'il avait d'être enfin sur la voie du mystère qu'il avait tant d'intérêt à pénétrer.
« Au lieu de railler la bonté de mon cœur, marquis, » répondit Madame de la Rochegue, « vous devriez l'imiter. » Et tâchez, parmi vos nombreuses connaissances, de procurer des leçons à cette pauvre fille.
« Certainement, » répondit le marquis avec une froideur apparente à l'endroit de la jeune artiste.
« Je vous promets de m'intéresser à votre protégée. Quoique j'ai peu d'autorité comme connaisseur en musique. Mais comment se nomme et où demeure cette jeune fille ?»«
Elle se nomme Herminie et demeure rue de Monceau.
Je ne me souviens pas du numéro, mais je vous le ferai savoir. »
« Je m'emploierai donc pour Mademoiselle Herminie, si je le puis, mais à charge de revanche, baronne, dans le cas où j'aurai aussi à réclamer votre patronage pour quelques prétendants à la main de Mademoiselle de Beauménil, je suppose, que je verrai du haut de mon observatoire avoir le dessous dans la rude mêlée des concurrents. »
« En vérité, marquis, vous savez mettre le prix à vos services, » répondit la baronne en souriant d'un air contraint.
mais je suis certaine que nous nous entendrons toujours parfaitement. »
Et moi donc, ma chère baronne, vous ne sauriez croire combien je me réjouis d'avance du touchant accord qui va désormais exister entre nous deux.
« Eh bien, après tout, » ajouta le marquis avec un accent rempli de bonhomie,
« avouons-le, notre petite débauche de sincérité nous a fameusement profité. Nous voici en pleine confiance, n'est-ce pas, ma chère baronne ?»«
Sans doute. »
« Et malheureusement, » ajouta la baronne avec un soupir, « c'est si rare, la confiance. »
« Mais aussi, quand ça se rencontre, » répondit le marquis, « comme c'est bon, hein, ma chère baronne ?»«
C'est divin, mon cher marquis. Ainsi donc, au revoir et à bientôt, je l'espère. »«
À bientôt, » dit monsieur de Maillefort en sortant du salon.
« Maudit homme !» s'écria madame de la Rochegue en bondissant de son fauteuil.
Et marchant à grands pas, elle donna enfin cours à ses sentiments si difficilement comprimés.
« Il n'y a pas une des paroles de cet infernal bossu, » reprit-elle, « qui n'ait été un sarcasme ou une menace. »
« Le fait est que c'est un bien prodigieux scélérat, » s'écria la voix du baron, qui apparut soudain à l'une des portes du salon dont il écarta les portières.